qui étaient contre le régime de Kiev, il était tué le 2 mai.
Yeah, party people, Joshua Dota, yeah.
Eux, c'est vraiment le cœur, c'est leur âme, c'est tout. Hein, et c'est un métier qui vient disparaître.
C'est les pubs connes qui font chier les gens, pas les pubs en général. Ça emmerde qui?
Salut, vous êtes bien dans La Porte à Côté, l'émission de reportage de Radio Campus Paris. Cette semaine, on vous emmène découvrir le roller derby, un sport de contact et de patins à roulettes. Tout droit venu des États-Unis, il commence à faire sa place en France, où il devient carrément mainstream. Dans l'Hexagone, on compte déjà 2000 licenciés et près d'une centaine de clubs. Quelques jours avant la Coupe du Monde de roller derby féminin, à Dallas, où l'équipe de France s'est qualifiée, La Porte à Côté est allée poser ses micros et ses patins tout droit chez les PRG, les Paris Roller Girls. Alors attachez votre casque et vos rollers, c'est un reportage de Fiona Guitard et de Tristan Goldbrun, et c'est parti.
Et quelles sont les règles ?
Derby 101, mesdemoiselles. 4 défenseurs de chaque équipe sont sur la piste. À 3 mètres derrière se trouve un attaquant de chaque équipe.
Dont celle qui gagne à tous les
coups. Premier coup de sifflet, le pack démarre la course. Au deuxième coup, c'est au tour des attaquants.
Certains sont plus rapides que les autres.
Une fois que les attaquants arrivent dans le pack, elles foncent pour essayer de marquer des points. Chaque fois qu'on dépasse une adversaire, on marque et ça donne un point. Celle qui marque le plus de points a gagné. Alors allez me chercher des points!
Je suis Marion, alias Hooligan. Ça, c'est mon nom de joueuse, puisque dans le derby, on choisit un nom de joueuse. On a fait toute une journée en fait, des tests de sélection, et à la fin, donc, ils en gardaient 40. On s'est entraîné en tant qu'équipe à 40 pendant un an, et maintenant, on n'est plus que 20 à partir à Dallas. La dernière a eu lieu il y a 3 ans, et là, cette fois-ci, il y a encore plus d'équipes. Il va y avoir 30 pays réunis, et ça dure 4 jours, et ça va être la plus grosse compétition à laquelle j'ai pu assister. J'ai hâte de vivre ça, ça va être quelque chose d'unique. Et j'ai entendu aussi mes coéquipières, qui pour certaines avaient participé à la première Coupe du Monde, et forcément, ça donne envie. L'ambiance à l'hôtel, tout ça, le fait de passer 4 jours ensemble, c'est de la compétition à un haut niveau, c'est tout ce qu'on aime. Si t'as un problème de patin en plein milieu d'un match, tu peux aller sur les stands de réparation. Ça m'a fait penser vraiment au Formule 1, tu sais. J'ai hâte de découvrir un petit peu ce que ça peut donner, une compétition avec un tel niveau. Et puis aussi le fait d'avoir tellement d'équipes qui vont se réunir, des équipes qu'on n'aurait jamais rencontrées ailleurs, comme je ne sais pas, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine. C'est quand même une chance de pouvoir rencontrer autant d'équipes et autant de filles qui partagent la même passion.
J'ai pas tout mis dans mon sac parce que je vais recevoir une dotation de matériel en arrivant de différents sponsors. Mes patins, les protège-coudes sont déjà dans la valise et le protège-dents aussi. Et les protège-poignets dans la valise aussi. Quand je jouais à Manchester, j'ai intégré l'équipe B qui s'appelle les Tender Hooligans. Donc j'ai voulu leur faire un petit clin d'œil. Et ensuite, c'est parce que quand je suis arrivée à Paris, j'avais pas encore de derby name et les filles ont commencé à m'appeler Manchester, donc parce que je venais de Manchester et ça me plaisait pas trop. Du coup, je me suis dépêchée de trouver quelque chose et je me suis dit que comme ça, c'était un petit peu en rapport avec Manchester quand même. Avant de partir en Angleterre, j'ai vu le film Bliss, comme pas mal de monde. Ça m'a donné envie de m'y mettre. Et en fait, quand j'ai vu ce sport, je me suis dit, bon, en fait, c'est exactement ce que j'ai toujours cherché, quoi. Parce que j'ai fait du judo pendant longtemps, donc j'aimais bien le contact. Et j'ai toujours aimé le roller aussi. Donc là, c'était une combinaison des deux. Et là, je cherchais un sport dans lequel j'allais uniquement m'amuser. Et là, quand j'ai découvert le roller derby, je me suis dit, c'est génial, il y a des, voilà, des patins, du contact, de la vitesse et du fun. Dans la ligue, chacune a un rôle à jouer. Au niveau de l'association, on est organisé en comité. L'idée, c'est, contrairement à un club sportif lambda où on va avoir un secrétaire, un président qui ne pratiquent pas, qui sont souvent plutôt des bureaucrates, au roller derby, c'est les joueuses qui font tout. On est parti sur l'esprit do it yourself, donc chacune a un rôle à jouer pour que l'association puisse tourner. La fédération, jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. Donc quand on s'inscrit au roller derby, on prend une assurance auprès de la FFRS, Fédération Française de Roller Skating, qui va nous permettre donc d'être assurés. Et à ce titre, on est donc considérés comme des licenciés de roller skating. Et actuellement, ils sont en train de plancher justement sur le cas roller derby. Et une commission vient d'être créée pour éventuellement avoir notre propre fédération ou notre propre section dans cette fédération. Je m'entraîne environ 10 heures par semaine, je dirais. J'essaye de faire deux entraînements avec ma ligue, donc ça fait, on a souvent des entraînements de 3 heures. Ensuite, on a des matchs tous les week-ends, et puis je m'entraîne aussi à côté, j'essaye de faire du sport, que ce soit un peu de jogging ou un peu de renforcement musculaire. Après, on n'a pas spécialement de contraintes, c'est-à-dire on n'impose pas non plus aux filles de faire deux entraînements par semaine ou plus. On demande bien sûr un entraînement régulier, mais on ne leur demande pas non plus d'être là à chaque fois, parce qu'il y en a qui ont des contraintes professionnelles ou familiales, et on comprend aussi qu'on ne peut pas se libérer forcément deux soirs par semaine. Quand j'ai commencé le roller derby, on devait être autour de 200 euros pour un équipement complet. Quand j'ai commencé, il se trouve que j'ai réussi à acheter toutes mes protections d'occasion. Donc j'en ai eu pour 1 euro sur eBay. J'étais la seule enchérisseuse pour un casque et tout un set de protection. Les patins, je les avais achetés, je crois, pour 80 euros ou 100 euros. Mais ces mêmes patins, aujourd'hui, ils en coûtent peut-être 160 euros. Parce que le marché a tellement grandi que voilà, les prix sont très vite montés, quoi. Une fille qui commence, elle doit en avoir pour au moins 300 euros pour s'équiper.
Je m'appelle Loana. J'ai commencé l'an dernier à Clermont parce que je suis arrivée en alternance là-bas et j'ai vu qu'ils avaient une équipe, enfin même plusieurs équipes. Et du coup, je me suis dit, allez, je commence. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse au roller derby. Et je trouve ça bien en soi parce que, comment dire, ça devient de plus en plus reconnu comme un sport et non comme le cliché du spectacle avec les filles, des filles en patin qui sont en petite tenue et qui se tapent dessus. C'est pas ça. Ça reste quand même un sport et malheureusement, ça a cette réputation-là de spectacle. Et le fait qu'il y ait de plus en plus d'équipes, je trouve que ça renforce cette vision sportive, en fait. Il n'y a qu'à voir justement les maillots de la Team France, c'est tout ce qui est plus classique. Elles étaient avec un maillot, un leggings, c'est vraiment une équipe de sport, quoi. C'est pas une équipe de démonstration. Quand on est arrivé chez les PRG, on était des rookies. Enfin, là je suis encore une rookie. En début d'année prochaine, on va passer les minimum skills. En fait, c'est des compétences qui sont demandées pour pouvoir justement vérifier, entre guillemets, que tu es apte à faire un match. Et du coup, c'est des compétences qui sont autant techniques que théoriques. Enfin, théoriques. C'est... on doit connaître les règles en entier. On a des questions sur les règles. On a des questions donc en situation, et puis on évalue aussi sur notre pratique du roller.
Alors, je m'appelle Stéphane, dans le milieu du derby je suis Johnny Boy, j'ai 25 ans et donc je suis dans le milieu du derby depuis janvier 2012. À l'époque où j'ai regardé le site des Paris Roller Girls, ils recherchaient des hommes principalement pour être arbitre. Donc j'avais postulé, j'avais envoyé un mail tout simplement en disant ben voilà, j'aimerais être arbitre, comment on fait. Et donc 15 jours plus tard, j'ai été à mon premier entraînement des Paris Roller Girls. Et quelques mois après, j'étais arbitre pendant les matchs, etc. Vous avez 7 arbitres en patin. Vous en avez 4 au centre, donc au milieu, la piste qui est réservée uniquement aux arbitres. Et vous en avez 3 à l'extérieur. Et sinon, vous avez également au maximum 11 arbitres sans patin, qui sont généralement chez nous en rose, qui est la couleur officielle de la WFTDA, l'organisme mondial du roller derby. Et donc vous avez au maximum 18 arbitres au total. Il y a beaucoup de rôles différents. Au niveau des arbitres avec patins, vous avez donc 2 arbitres qu'on appelle les Inside Pack Ref, donc qui s'occupent en gros que du pack, que des joueuses, des bloqueuses. Vous avez 2 arbitres, un par équipe, qui s'occupent des jameuses. Et vous avez 3 OPR donc qui sont à l'extérieur, qui aident les jam ref principalement et les 2 autres inside pour tout ce qui est faute, etc. Vous avez aussi donc les 11 NSO, donc non-skating officials, qui sont, comme leur nom l'indique, donc des arbitres sans patins, qui vont pas donner de faute, eux, mais ils vont principalement donc s'occuper de répertorier les fautes que vont donner les arbitres. Vous avez aussi des NSO qui vont s'occuper de la prison, donc ils vont noter le temps de la prison, vérifier que les joueuses ne dépassent pas le temps ou ne fassent pas moins que le temps qu'ils leur impartissent. Vous avez donc des NSO qui vont répertorier vraiment les pénalités des arbitres. Il y en a d'autres qui vont noter les joueuses qui sont alignées sur chaque jam. Vous avez un NSO aussi qui va s'occuper du temps du jam, bien vérifier que le temps ne dépasse pas 2 minutes. Vous avez 2 autres NSO qui vont s'occuper du nombre des points des jammers. Et une autre qui va s'occuper du scoreboard, donc de l'affichage du score et du temps. C'est 5 contre 5 au maximum, donc hors prison. Vous avez une jameuse et 4 bloqueuses, dont une pivot. Alors la pivot, en fait, alors dans les règles, elle a une seule caractéristique autre que les bloqueuses. Elle peut recevoir l'étoile, donc de jameuse, ce qu'on appelle un passage de l'étoile, pour à nouveau devenir jameuse. Chaque jam, vous avez au maximum donc une pivot, une jameuse et 3 bloqueuses hors pivot. Par jam. Après, à chaque fois, les pivots, les jameuses changent à chaque fois, chaque jam.
Et quand une fille est hors jeu, elle est en prison ou là c'est quand il y a une faute par contre ?
Alors, elle est en prison quand il y a une faute. Donc, alors après, si on détaille toutes les fautes, ça va être très très long. Mais en gros, quand elle est hors jeu sur le track, elle ne peut plus rien faire. Donc elle a tout intérêt à revenir dans le jeu pour pouvoir à nouveau bloquer, etc.
Et là, en prison, elle y reste combien de temps à peu près ? Il y a un temps de pénalité quoi.
Il y a un temps de pénalité qui est de 30 secondes. Après, il faut le temps d'y aller et de revenir après sur la piste. Donc, elle ne peut pas revenir et aller en prison n'importe comment.
La porte à côté, c'est fini pour aujourd'hui, mais patience, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et au même jour. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site www.radiocampusparis.org, tout attaché, émission La Porte à Côté ou sur notre page Facebook La Porte à Côté. Salut et bonne semaine sur Radio Campus Paris. So small.